Chapitre 10. Ma tournée des chambres est un calvaire. Lorsque je redresse les patients dans leur lit, je gémis plus qu'eux. Placer les perfusions, changer les pansements, même ouvrir un opercule de médicaments, tout prend des allures d'épreuve olympique. Heureusement que mon aide-soignante Fatoumata est géniale. On forme un excellent tandem, surtout elle. Car, quelle que soit la partie de mon corps que je sollicite, des muscles dont je n'avais jamais soupçonné l'existence manifestent leur douleur et leur colère. Ils sont légions et crient d'une seule voix qu'ils veulent retomber dans leur paisible anonymat. Les grands fessiers mènent la fronde. J'ai peur que même en m'asseyant dessus, je ne les fasse pas taire, bien au contraire. Pour savoir à quoi ressemble ma démarche aujourd'hui, il suffit d'imaginer le premier robot humanoïde que les scientifiques ont programmé pour avancer tout seul. Le machin avait du mal à filer droit. Il manquait de se renverser à chaque pas, il grinçait, et la seule fois où il a réussi à parcourir 2 mètres, il s'est mis à fumer et a pris feu. C'est tout moi. Je quitte la chambre, laissant Fatoumata avec la malade. Je récupère mon chariot, que je pousse comme à la mine. À l'angle du couloir, je tombe sur le docteur Molnar. Il ne manquait plus que lui. À la façon dont il réagit en me voyant, notre rencontre n'est pas le fruit du hasard. « Mademoiselle Lafonta, je vous cherchais. C'est bien vous, Hélène, n'est-ce pas ?»« La seule du service. »« Très bien, très bien. Dites-moi, mademoiselle, est-ce vous qui avez déclaré à la famille de Madame Badawi, chambre 17, qu'elle se portait vraiment mieux et qu'elle pourrait bientôt sortir ?»« Suis-je la seule à entendre le galop des ennuis qui approchent ?» J'ai simplement constaté qu'elle se rétablissait rapidement et qu'elle était déjà quasiment autonome. L'aide-soignante ne l'assiste plus pour sa toilette et ses soins sont réduits au minimum. Ses examens étant bons, je leur ai dit « S'il vous plaît, rafraîchissez-moi la mémoire. Quel diplôme avez-vous ? » Je déteste lorsqu'il joue à ce petit jeu. Derrière son phrasé propre et net, au-delà de cette politesse de façade, je sais qu'il se prépare à me rabaisser. Il est coutumier du fait. Je m'efforce d'argumenter. Sa fille et son mari étaient inquiets, et ils voulaient déjà s'organiser pour son retour. Ils m'ont simplement posé des questions. « Vous n'avez pas répondu à la mienne. Avez-vous fait médecine ? Êtes-vous diplômée de la faculté ?»« Non, docteur. Je suis infirmière. » »« Noble fonction, assurément, mais qui, selon les canons de la profession, ne vous autorise nullement à tenir ce genre de propos qui nous engage en tant qu'institution et que je dois ensuite gérer. » Elle ne va pas sortir bientôt ? Si, mais ce n'est pas à vous de l'annoncer. Lui, dans le zoo, ce serait le babouin tombé de sa branche alors qu'il faisait la sieste. Je le soupçonne aussi d'avoir le croupion irrité. Je ne dis pas que c'est un mauvais médecin, mais humainement, c'est vraiment nuisible. Toujours à brandir son petit pouvoir, à se grandir en marchant sur les autres. On m'a raconté qu'avant mon arrivée, il avait brigué la direction du service et que, n'ayant pas été choisi, il a depuis des problèmes d'ulcère. Étant donné le peu d'années qu'il lui reste à faire, il va finir sa carrière sans avoir accédé à un poste qui aurait satisfait son ego. Résultat, il le fait payer à tout le monde, surtout à ceux qu'il domine hiérarchiquement. Son dernier coup est une circulaire nous interdisant de le tutoyer, alors que c'est un usage couramment admis vis-à-vis des médecins. Avez-vous compris ce que je viens de vous expliquer ?
Tout à fait, docteur.
Il bombe le torse. Le petit sourire qu'il arbore quand il est fier de lui se dessine déjà à la commissure de ses fines lèvres. C'est parti pour la mise à mort. Il va me piétiner, m'écrabouiller, et je ne vais rien pouvoir répondre à cause de ces satanés verrous qui retiennent la bête dans sa cage de beaux principes. Je m'en fous. Je suis déjà à l'abri dans ma cachette secrète de ma tête. Quand ça devient trop tendu pour moi, je m'évade dans une bulle, je me réfugie dans un souvenir et j'y suis à l'abri. Un sanctuaire par balle, un blocos d'affection. Pendant qu'il s'excite en faisant des gestes saccadés de dictateur halluciné, je me trouve mentalement au sommet de la colline où mon grand-père m'emmenait lorsque j'étais petite. Une vue offerte sur l'horizon, le parfum des sapins que je respire à plein poumon, sa voix rocailleuse qui me raconte les villages de son enfance et parfois, un lapin qui pointe son bout de nez en se demandant ce que l'on fait chez lui. « Hélène, vous m'écoutez ?»«
Bien évidemment. » »«
Je vais vous expliquer les choses assez simplement pour que vous puissiez les retenir. Cet hôpital est une machine complexe dans laquelle chaque rouage a son utilité. Vous me suivez ?»«
Comme une trotteuse. »
Chaque pièce doit cependant rester à sa place, sinon c'est l'anarchie. J'ai saisi. Pour que pareille situation ne se reproduise pas, je vous demande de garder en permanence à l'esprit deux principes fondamentaux. Si vous craignez de ne pas réussir à les mémoriser, vous pouvez les écrire sur un Bristol que vous collerez sur votre chariot ou que vous afficherez en fond d'écran. Tellement de réponses me viennent, mais je dois la boucler. Il poursuit. Principe numéro 1. Vous n'êtes pas habilité à émettre un diagnostic. Principe numéro 2. Même si le malade ou sa famille vous le demande, vous n'êtes pas là pour leur faire plaisir, mais pour administrer les soins qu'un professionnel compétent ayant suivi le cursus adéquat juge utile. Tenez-vous-en à cela et nous serons les meilleurs amis du monde. Je me retiens de justesse de lui hurler que je n'ai pas envie qu'il devienne mon meilleur ami du monde. Pas du tout. Qu'il éclate. Je préférerais un hamster pelé plutôt que lui. Que puis-je face à une telle attitude ? Je me sens comme King Kong, se débattant impuissant contre ceux qui le maltraitent, ligoté par mes principes et la réserve que mon éducation m'impose. Ai-je été assez clair ? Limpide, docteur. Merci de votre attention. Excellente journée. Il tourne les talons et s'éloigne, manifestement satisfait de m'avoir laminé. Même de dos, cela se voit. Il se tient plus droit, il marche d'un pas conquérant. Heureusement que parmi tous les médecins, il n'y en a qu'un comme lui. Il est convaincu d'avoir raison. Il se considère comme irréprochable. Pourtant, dans sa façon de faire, je sais qu'il a tort. Son attitude est détestable. Suis-je condamné à subir ce genre d'humiliation toute ma vie? Est-ce notre condition? Devons-nous en permanence nous écraser et nous soumettre? Faut-il avoir atteint un certain âge pour que les petits roquets n'osent plus vous mordre? À moins qu'il ne faille apprendre par nous-mêmes à nous en prémunir. Que faut-il avoir vécu pour trouver la force de rompre nos entraves et de repousser les cloportes qui pourrissent nos vies?